Je vais vous parler de la crainte ce soir, pour voir avec vous ce que la parole de Dieu dit sur la crainte et ce qu'on doit en faire. Parce que selon le point de vue, ça peut être un boulet ou ça peut être quelque chose de très positif. Ça dépend qu'est-ce qu'on craint et qui on craint. Alors j'ai relevé un certain nombre de passages dans la parole qui nous parlent de la crainte. J'aimerais les voir avec vous ce soir. D'abord, la crainte, qu'est-ce que c'est? C'est la peur. Donc, fondamentalement, c'est le désir d'éviter quelque chose de désagréable ou de dangereux, ou quelque chose de nuisible pour nous. C'est ça, la crainte. Alors, ce qui est important de savoir au départ, c'est de savoir qui éprouve ce besoin d'éviter quelque chose de désagréable. Qui éprouve ce besoin? Et selon l'origine de cette crainte, on peut voir si elle est bonne ou mauvaise. En nous, il peut y avoir deux sources de crainte. La première est dans notre chair et la deuxième est dans notre esprit. La chair a des craintes et l'esprit a des craintes. Là, je parle de chrétiens, donc qui ont l'esprit régénéré par la nouvelle naissance. Je ne parle pas des païens de ce monde qui éprouve une crainte unique, c'est celle de la chair, puisque leur esprit n'est pas régénéré, donc c'est une crainte entièrement dominée par le péché. Tandis que nous, chrétiens, nous pouvons éprouver deux sortes de craintes, une qui vient de la chair et une qui vient de l'esprit. La crainte de la chair, elle veut à tout prix éviter ce qui déplaît au moi, alors que la crainte de l'esprit, qui vient de l'esprit, essaye à tout prix d'éviter ce qui déplaît à Dieu. Alors voyez, selon le point de vue, la crainte est une bonne chose ou une mauvaise chose. La crainte charnelle est une très mauvaise chose. On va voir un peu plus loin à quoi elle conduit, où elle mène. Alors que la crainte qui est dans notre esprit régénéré, la crainte de Dieu est une très bonne chose. Et elle nous pousse à grandir spirituellement. Et bien souvent dans nos vies, tant qu'elles ne sont pas vraiment sanctifiées et que la chair n'a pas disparu dans ses effets, dans ses manifestations, dans ses mauvais désirs, bien souvent il y a un mélange entre ces deux craintes. Il y a notre chair qui met en avant certaines craintes et notre esprit aussi qui met en avant certaines craintes. Il est très important qu'on puisse bien discerner les deux en nous. Quand on éprouve une crainte, est-ce qu'elle vient de la chair, est-ce qu'elle vient de l'esprit? Il y a des moments où c'est très clair, d'autres moments où on se laisse avoir, où on est dominé par une crainte charnelle, alors que ce serait la crainte spirituelle qui devrait nous conduire. La crainte qui vient de la chair, elle conduit à la crainte des hommes. La crainte qui est éprouvée par notre esprit, c'est la crainte de Dieu. Alors la crainte des hommes, la chair, n'aime pas du tout être rejetée, incomprise, maltraitée. La chair a horreur de ça. La chair aime bien être reconnue, être flattée, être gâtée, mais elle craint le rejet, elle craint l'abandon, elle craint la solitude, elle craint la persécution, elle craint la souffrance, et elle craint par-dessus tout la crucifixion. Donc c'est ça que la chair craint. Elle essaye d'éviter à tout prix ça. Alors que notre esprit, lui, il nous est donné par le Seigneur un esprit nouveau, un esprit qui est conçu par Dieu pour le craindre, lui. Mais là aussi, il y a un progrès dans la crainte, d'une crainte de Dieu qui est fondée sur la crainte de la correction de Dieu. Le Seigneur veut me faire aller plus loin. Il veut que je me comporte bien parce que j'aime le Seigneur et je veux lui obéir. Bon, c'est vrai qu'il faut craindre la correction de Dieu, il faut l'aimer même. Il faut la craindre au sens, je vais essayer d'éviter la correction de Dieu en me corrigeant moi-même avant que lui le fasse. Mais ce n'est pas toujours possible parce que mon intelligence est souvent limitée. Et Dieu qui voit comme un bon père voit ses enfants, il voit de haut ce que je suis en train de faire et il va me corriger. Donc je peux partir de la crainte de la correction et du châtiment pour motiver mes actions chrétiennes, mais le Seigneur veut me faire aller plus loin. Il veut que je me comporte bien, non pas simplement par la crainte du châtiment, mais par amour pour Dieu tout simplement, parce que j'aime le Seigneur et je veux lui obéir. Et c'est ça la vraie crainte du Seigneur, c'est la crainte de lui déplaire, la crainte de marcher à côté de son plan. Quand on aime vraiment le Seigneur, on veut faire sa volonté. Et le Seigneur, il nous conduit par toutes sortes de corrections et de jugements à aimer sa volonté par-dessus tout. Parce que Dieu nous a aimés le premier et il mérite qu'on l'aime de tout notre cœur. C'est son premier commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et quand on a cet amour-là de Dieu dans le cœur pleinement manifesté, à ce moment-là, la vraie crainte spirituelle de Dieu est dans notre cœur et on va avancer. On va avancer vite parce qu'on aura soif de Dieu et des choses de Dieu. Alors voyez les deux craintes, comment elles se présentent. On va voir maintenant dans la Bible des passages qui parlent de la première, de la crainte qui vient de la chair, comment en être aussi débarrassé, et de la crainte véritable du Seigneur qui est spirituelle. Alors je vous ai dit que la crainte charnelle, elle est égoïste et elle veut satisfaire le moi avec ses désirs et ses passions. Donc la crainte, elle fuit tout ce qui est désagréable à la chair et elle recherche tout ce qui est agréable à la chair. Donc elle a pour contrepartie la convoitise. La crainte essaye d'éviter tout ce qui est désagréable et la convoitise, elle essaye d'attirer tout ce qui est agréable à la chair. Les deux vont tout à fait ensemble, elles travaillent dans le même sens. La convoitise veut tout ce qui est agréable à la chair et la crainte charnelle, elle refuse tout ce qui est désagréable à la chair. Elle pousse dans un sens complémentaire. Donc elle est stimulée, la crainte charnelle, par la convoitise. Il faut bien comprendre ça. Et dès le début, on le voit dans le livre de la Genèse, quand l'homme n'avait encore aucun péché dans son cœur, l'homme et la femme étaient sans péché, ils étaient parfaits, créés parfaits par Dieu. Et quand le diable est venu tenter Ève, il l'a tentée en lui montrant le fruit défendu et en stimulant la convoitise d'Ève, la convoitise qu'elle pouvait avoir si elle n'obéissait plus au Seigneur. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit, si tu en manges, tu mourras. Et le diable vient faire miroiter la beauté du fruit et il est écrit, et Ève vit que le fruit était beau à voir, bon à manger et bon pour ouvrir l'intelligence et donner la connaissance, puisque c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait les trois éléments qui sont repris dans la première épître de Jean, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et parce que ces trois choses sont entrées dans le cœur d'Ève, la crainte de Dieu a quitté son cœur, la crainte de la parole de Dieu qui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, plus on se laisse imprégner par la crainte de la chair et la convoitise de la chair, et plus on va abandonner la crainte de Dieu. Ils avaient la crainte du Seigneur au départ, et parce qu'ils ont ouvert leur vie à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie, la crainte de Dieu a disparu, et le péché est entré par la désobéissance. Et avec le péché est entrée la crainte charnelle, puisque dès que le péché a été consommé, la première réaction d'Adam et d'Ève, ça a été de se cacher par crainte de Dieu, mais crainte dans le mauvais sens. C'était plus la crainte au sens, Seigneur, je veux te faire plaisir et je désire ne pas te déplaire. Là, c'était la crainte du jugement de Dieu à cause du péché. Donc vous voyez que la crainte est rentrée au départ par le péché qui lui-même a été causée par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont toujours les mêmes portes ouvertes pour nous, pour le péché et pour la crainte charnelle. La convoitise des yeux, c'est tout ce qui est beau. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui est bon. Et l'orgueil de la vie, c'est tout ce qui est moi. Alors quand tout ça entre dans notre cœur, le péché entre aussi, et avec le péché, la crainte charnelle. Pour Satan, ça a été la même chose. Satan voyait Dieu face à face. Satan était aussi un pur esprit. Il n'avait pas de corps charnel comme la création d'Adam et d'Ève. Mais il voyait Dieu face à face tel que Dieu était. Il était dans l'intimité de Dieu. Et lui aussi, au départ, avait un cœur parfait, sans péché. Mais lorsque l'orgueil, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie sont entrés dans son cœur, il a péché. Et à ce moment-là, la crainte diabolique, il s'en sert maintenant comme d'une arme épouvantable, puisque c'est une des deux armes principales de Satan, la crainte et la séduction, la tromperie, le mensonge. Mais pour lui, ça a été pareil, ça a été le même processus. Au lieu de garder son cœur pur comme il l'avait au départ, il a laissé la convoitise, il a vu le trône de Dieu et il l'a convoité. Il a vu la beauté de l'adoration céleste, des cœurs, etc. Il a dit, tiens, ça m'irait bien. Et il a dit, moi, moi, moi. Et à cause de cet orgueil, de cette pensée qui s'est tournée vers lui, au lieu de rester tournée vers Dieu, eh bien, toute cette convoitise est entrée. Et avec la convoitise est entrée pour lui aussi la crainte, parce qu'il est bien écrit que les démons connaissent Dieu et connaissent le nom de Jésus, ils croient et ils tremblent. Satan aussi. Il sait quel est son sort et il tremble au nom de Jésus-Christ. Donc cette crainte charnelle est toujours associée au péché. Toujours. Ce désir de satisfaire la chair et ce désir d'éviter tout ce qui est désagréable à la chair, en particulier la croix, c'est toujours associé au péché. Regardez dans Jérémie 17, 8, ce que le prophète dit, et je lirai à partir du verset 5, Jérémie 17, 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » On pourrait traduire aussi « maudit soit l'homme qui craint l'homme. » Puisque se confier dans l'homme, c'est craindre l'homme, enfin au sens « je vais tenir compte de ses avis, je vais suivre ce qu'il me dit, je vais surtout éviter de lui déplaire. » C'est ça la crainte de l'homme. Mais en fait, c'est se confier dans quelque chose qui n'a aucun soutien solide et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, c'est-à-dire qui craint l'Éternel. Vous voyez, se confier dans l'homme, c'est la crainte de l'homme. Se confier dans l'Éternel, c'est la crainte de l'Éternel, dans le bon sens. Et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Donc au milieu des difficultés, au milieu de la sécheresse, au milieu de toute cette chaleur causée par le manque d'eau, pas de pluie, rien, parce qu'il se confie en Dieu, il n'a pas de crainte. La crainte est associée au péché, associée à l'écoute des hommes et de leurs conseils impies, la crainte charnelle. La crainte de Dieu, elle est associée à la confiance et à la foi en Dieu. Quand la foi en Dieu est puissante, elle est forte, l'assurance est grande et la crainte est bannie. La crainte s'en va. Quand la foi est forte, la crainte s'en va. On ne peut pas avoir à la fois dans le cœur la foi et la crainte. Ça ne va pas ensemble. Donc plus notre foi en Dieu augmente, je m'appuie sur Dieu, la crainte s'en va. Les deux sont inversement proportionnels. Alors que l'absence de foi en Dieu, l'incrédulité, augmente la crainte. Si nous ne pouvons pas nous confier en Dieu, en qui et en quoi allons-nous nous confier? On va être constamment en train de craindre quelque chose, de craindre des personnes, ou de craindre les événements, ou de craindre la mort, ou de craindre la maladie. Toutes ces choses vont rentrer par l'incrédulité, la crainte charnelle. Alors que la confiance en Dieu, la crainte du Seigneur, la confiance en Dieu va augmenter la foi. Dans Romains 8, 15... Même 14, Romains 8, 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » La crainte charnelle est la marque d'un esprit de servitude. Si la crainte charnelle est encore dans notre cœur, que ce soit la crainte des hommes, que ce soit la timidité qui est une forme de crainte aussi, eh bien, c'est encore la marque d'un esprit de servitude, parce qu'on va craindre les hommes. lorsque l'amour de Dieu nous libère de toute crainte, on n'a plus cet esprit de servitude. On dit « Abba, Papa, je suis dans l'intimité avec Dieu, je ne vais pas être habité par cette crainte charnelle, je vais garder simplement la crainte de Dieu, la crainte spirituelle du Seigneur. » Le respect pour Dieu et l'amour pour Dieu, mais n'a rien à voir avec la crainte charnelle. Donc c'est la marque d'un esprit de servitude. Et il est bien dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, on en a été libérés. L'esprit de servitude vient de la chair, il vient de ce jugement qui était sur le péché quand nous vivions dans la chair, et le Seigneur veut nous en débarrasser. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des fils et des filles de Dieu qu'il veut faire marcher dans sa liberté, liberté qu'il appelle glorieuse. Dans 1 Jean 4, 18, il dit aussi, alors je commence au verset 16 pour voir le contexte, 1 Jean 4, 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Je m'arrête là. La crainte n'est pas dans l'amour. Et il dit, juste à la fin du verset, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, lorsque la crainte charnelle est dans notre cœur, c'est le signe d'un manque de perfection dans l'amour de Dieu. Si nous craignons qui que ce soit ou quoi que ce soit à part Dieu et sa parole, c'est la preuve que l'amour de Dieu n'est pas encore pleinement formé en nous. Chaque fois qu'il y a un peu de crainte dans nos cœurs, de crainte charnelle, il y a un manque d'amour. Plus la crainte est grande, et moins l'amour est grand. Et le Seigneur, il veut nous débarrasser de cette crainte charnelle pour que son amour puisse remplir tout. La crainte n'est pas dans l'amour. Et il veut que son amour soit parfait en nous, éliminer toute trace de crainte, de peur, de timidité, d'angoisse, de phobie, etc. Enfin, tout ça, c'est des mots divers pour la crainte. Elle suppose un châtiment. Si nous avons confessé nos péchés et que nous avons reçu par la foi le pardon de nos péchés, nous ne sommes pas encore parfaitement manifestés dans la stature parfaite de Christ, mais nous avons reçu le pardon de nos péchés et nous marchons dans la lumière que nous avons reçue. Et il n'y a pas de crainte de châtiment à ce moment-là. Celui qui marche dans ces conditions-là, il marche par l'esprit. Il n'a pas d'esprit de condamnation et de culpabilité. Il marche dans l'humilité en sachant qu'il n'est rien devant Dieu, mais que le péché a été confessé, que nous avons reçu par la foi le pardon, donc il n'y a pas de crainte du châtiment. La crainte du châtiment n'est là que quand on n'a pas confessé un péché ou quand on a un esprit de culpabilité. Même après l'avoir confessé, il y a des chrétiens comme ça, ils confessent leur péché constamment, ils sont dans un esprit de culpabilité. C'est parce qu'ils ne se sont pas débarrassés de cette accusation démoniaque qui vient de Satan et qui veut mettre la peur dans leur cœur. Donc cette crainte, je le répète, ça dénote un manque d'amour, une imperfection dans l'amour. Cette crainte charnelle pousse à l'hypocrisie. Parce que le chrétien qui sait ce qu'il devrait faire, mais qui a encore cette crainte charnelle, il est tiraillé entre les deux. Et il va être poussé à adopter une façade pour cacher sa crainte. Ou pour suivre les hommes à cause de la crainte qu'il a dans le cœur, la crainte des hommes. On en voit un exemple dans la Bible, parmi d'autres, quand Pierre, qui allait librement manger chez les païens, avant que les chrétiens juifs n'arrivent le visiter, puis lorsque les juifs chrétiens, c'est-à-dire les circoncis chrétiens, sont venus, ils étaient encore un peu liés par un esprit légaliste, et ils disaient qu'il ne fallait pas aller manger chez des païens. Et Pierre, il s'est laissé influencer par la crainte des hommes, et quand ces chrétiens-là, légalistes, sont arrivés, il a arrêté de visiter et de manger chez les païens. Et Paul l'a sévèrement repris devant tout le monde. Et d'ailleurs, Pierre l'a très bien accepté, c'est le signe qu'il avait vraiment l'esprit apostolique. On le voit dans Galates 2:12, au verset 11, « Lorsque Céphas, c'est l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face. » Amen, c'est ça qu'il faut faire, mes frères et mes sœurs. Dans l'amour et dans la sainteté de Dieu, si nous voyons un frère qui publiquement fait un acte répréhensible, nous ne devons pas hésiter à nous lever devant toute l'assemblée pour dire « c'est un acte répréhensible ». Quelles que soient les conséquences pour nous, on pourra peut-être se faire mettre à la porte ou critiquer. Eh bien ça, c'est d'avoir la crainte du Seigneur dans le cœur. Il se passe sous tes yeux quelque chose qui est répréhensible. Lève-toi et avec calme et tranquillité, dis-le. C'est répréhensible. Il l'a dit, je lui résistais en face et publiquement. Il n'a pas dit, oh, c'est l'apôtre, c'est un des grands apôtres qui a connu Jésus. Je ne vais surtout pas me permettre de le reprendre devant les autres. Je vais attendre qu'on soit tous les deux. Et puis j'essaierai de lui dire, pourvu qu'il écoute. Non, ça c'est la crainte des hommes. Avec amour, mais avec force et fermeté devant tous, pour que les autres en aient de la crainte, et Pierre aussi, il lui a dit, « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, des juifs qui s'étaient convertis. » Par crainte. « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, etc. » Donc il le reprend. Donc vous voyez que cette crainte charnelle-là nous pousse à adopter une attitude hypocrite, pharisaïque, comme les pharisiens, qui avaient la façade, mais dedans c'était des ossements. Là, ce n'était pas pleinement le cas de Pierre, mais enfin, il y prenait le chemin. Et il adoptait une attitude de pharisien, la façade. Et cette attitude aussi, cette crainte, nous empêche de marcher pleinement selon la vérité de l'Évangile. C'est une peste dans la vie des chrétiens, cette crainte charnelle et cette crainte des hommes. Elle nous pousse à l'hypocrisie, elle nous empêche de marcher selon la pleine vérité de l'Évangile. Elle résulte de l'orgueil, cette crainte. Pourquoi est-ce qu'on craint les hommes en général? On craint d'être jugé, d'être condamné, d'être repris. Parce que notre orgueil en prend un coup. Si les hommes nous tiennent tête publiquement et devant tous, bon, c'est pas très agréable. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est une grâce devant Dieu. Mais quand on a la crainte charnelle, la chair n'aime pas qu'on la reprenne publiquement. Là, Pierre a eu une très bonne réaction. Il a montré que sa chair était crucifiée, qu'il acceptait d'être repris par Paul devant tous. Mais cette crainte des hommes, elle résulte de l'orgueil. On voit dans Deutéronome 17, 13, « Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Il parlait de ceux qui pratiquaient des péchés abominables et qui devaient être mis à mort. « Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne de la crainte de Dieu, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil, c'est-à-dire à la crainte charnelle. » La crainte charnelle, c'est l'abandon de la crainte de Dieu. L'orgueil est associé à la crainte charnelle. Et l'orgueil, c'est l'abandon de la crainte de Dieu. Donc il faut ôter le mal du milieu de nous, en commençant par nous-mêmes, et puis en veillant à ce que le mal soit ôté de l'Église, pour que l'orgueil ne domine plus, mais que soit l'esprit humble et soumis du Seigneur Jésus qui règne au milieu de son peuple et dans nos vies. Alors je vais un peu développer cette crainte des hommes parce qu'elle est tenace en lisant trois passages qui concernent spécialement la crainte des hommes, une forme de crainte charnelle, la crainte des hommes. On voit que cette crainte nous pousse à pécher. Dans 1 Samuel 15, 24, dans l'exemple de Saül, Saül avait bien commencé comme roi, mais il a laissé l'orgueil rentrer dans son cœur. Et la désobéissance, ça va ensemble. Et à cause de ça, il a quitté la crainte de Dieu, il a laissé la crainte des hommes rentrer, et ça l'a poussé à pécher. Dans 1 Samuel 15, verset 24, « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Donc le fait de craindre le peuple et d'écouter sa voix nous pousse à pécher, soit directement à commettre un acte qui est répréhensible, soit indirectement en ne faisant pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire ouvrir la bouche et parler, dénoncer le péché. Donc dans les deux cas, soit qu'on ferme la bouche alors qu'on devrait l'ouvrir, soit qu'on l'ouvre pour dire quelque chose qu'on n'aurait pas dit, dans les deux cas, la crainte des hommes nous a poussés à pécher. Ça a été le cas de Saül et il le dit là. J'ai péché, j'ai écouté le peuple parce que je le craignais. Et pourquoi il le craignait? Parce que l'orgueil était rentré dans son cœur. Il ne craignait plus Dieu, mais il voulait garder la face. Et quand Samuel le reprend vertement, encore il dira à Samuel, écoute, viens devant moi, devant le peuple, avec moi pour la façade. Il n'était pas vraiment repenti. Il ne s'est jamais repenti sérieusement. Et on voit comment il a fini. Parce que la crainte de Dieu n'est pas revenue dans son cœur, il a fini dans l'idolâtrie, il a fini dans l'occultisme et il a fini par un suicide. Donc vous voyez où la crainte, la conduite, la crainte des hommes qu'il n'a pas rejeté à temps de son cœur. La crainte des hommes, dit Proverbe 29-25, la crainte des hommes nous tend un piège. C'est ce que dit ce proverbe. La crainte des hommes nous tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est gardé. Les pièges, ils sont nombreux sur notre route. Il y a les pièges de Satan, il y a la séduction de ce monde, il y a les pièges de la chair, il y a les pièges que nos ennemis tendent devant nous. Il y a toutes sortes de pièges dans lesquels on peut tomber dans cette vie. Et le Seigneur nous demande de marcher en regardant où nous posons les pieds. Et Proverbe 29-25 dit bien, « La crainte des hommes nous tend un piège. » Et je suis certain que la crainte des hommes nous fait tomber dans ce piège, comme on vient de le voir pour Saül. Donc là, c'est un piège qu'on ajoute à tous les pièges qui sont sur notre route et que nos ennemis mettent sous nos pas. Là, c'est un piège qu'on se met soi-même parce qu'on a gardé la crainte des hommes. La crainte des hommes que tu as gardée dans ton cœur te tend un piège. C'est comme si tu te mettais devant ta route un piège où tu vas tomber toi-même dedans. Enfin, dans Jérémie 1, c'était lors de l'appel de Jérémie. Jérémie était un jeune garçon. À cette époque-là, il avait, on ne dit pas exactement, mais il avait peut-être 14-15 ans. Donc c'était à l'appel de Jérémie le prophète, il était tout jeune. Et il a prophétisé jusqu'à un âge avancé sous plusieurs rois. Ça a été un des prophètes les plus isolés, les plus persécutés, les plus rejetés. Mais il y a eu des moments de détresse en lui, de tristesse terrible, mais il a toujours gardé la crainte de l'Éternel et il n'a jamais abandonné cette crainte. Il ne s'est pas laissé aller à la crainte des hommes. Et pourtant, s'il y en avait un qui aurait pu l'avoir, cette crainte des hommes, c'est bien lui. Constamment persécuté. Tout le monde était contre lui, à part une petite poignée qui avait la crainte de l'Éternel. Il était constamment rejeté, persécuté. Il a failli perdre sa vie. Et le seul qui savait qu'il y avait un prophète de Dieu à Jérusalem, c'était le roi Nabuchodonosor. Quand il a pris la ville, il lui a dit, « Toi, tu es un prophète de Dieu, va où tu veux aller. » Mais il dit ici, dans Jérémie 1, d'abord au verset 6, « Je répondis, « Ah, Seigneur éternel !» Le Seigneur l'appelle et lui dit, « Va parler aux autres et va leur dire ce que je te demanderai de leur dire. » Et il dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Combien d'entre nous avons dit, « Mais Seigneur, regarde, je manque de dons, je suis timide, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis moi pour ouvrir ma bouche ? Seigneur, regarde. » Jérémie était un enfant, un jeune garçon, « Mais je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas. » Pourquoi ? Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ne les crains pas. Tu peux avoir le monde entier contre toi. Si tu as Dieu avec toi, tu es tranquille. Enfin, tranquille, je veux dire, tu seras peut-être persécuté et bien embêté, mais tu n'auras pas la crainte dans ton cœur. Que peuvent te faire les hommes ? Prendre ta vie et après. tu iras plus vite auprès du Seigneur et tu auras une meilleure résurrection. Hein? Donc, ne les crains pas. Et Dieu lui donne sa mission et il l'ajoute un peu plus loin au verset 17. Et toi, Saint-Airain, ça veut dire, hein, prends courage, fortifie-toi, Saint-Airain, c'est ce qu'il a dit aussi à Josué, hein, fortifie-toi et prends courage, ne les crains pas, je suis avec toi. Et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Donc ça, c'est une autre conséquence de la crainte des hommes. Si nous tremblons devant les hommes, Dieu va nous donner un cœur craintif. Il va forcer la dose, le Seigneur. On avait déjà la crainte des hommes, mais Dieu nous dit, « Ah, tu crains les hommes et tu ne veux pas m'obéir. Eh bien, je vais te rendre un cœur encore plus craintif. » Et là, on est en mauvaise posture. On n'a qu'une solution, c'est se repentir et dire, « Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, je reviens. » Et au verset 19, ils disent, « Ils te feront la guerre. » Il y avait de quoi, pour la chair de Jérémie, avoir peur, hein? Et je suis sûr que dans sa chair, il avait une frousse terrible. Il le montre ici au début. Mais il s'est placé dans un point de vue spirituel et il a dit, Dieu m'envoie, Dieu est avec moi. Je vais mettre de côté cette crainte charnelle que je sens dans ma vie. C'est normal, hein, j'ai une chair. Mais je vais m'appuyer sur le Seigneur. Il m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et ça, ça a été une parole qui a enlevé la crainte des hommes de son cœur. Donc si nous avons encore cette crainte des hommes dans le cœur, eh bien c'est que nous n'avons peut-être pas encore clairement entendu l'appel de Dieu pour notre vie. Parce que Jérémie, lui qui avait cette crainte des hommes dans le cœur, cette crainte charnelle, à partir du moment où Dieu s'est révélé, Dieu lui a dit, Jérémie, voilà le plan que j'ai pour ta vie, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Ça a mis une telle conviction dans le cœur de Jérémie qu'il a dit maintenant, j'y vais. Donc il est important que nous cherchions la face de Dieu pour avoir la conviction de notre appel, de notre place et de la mission que Dieu nous donne. Et cette révélation de Dieu qu'il veut donner à tous ceux qui la demandent et qui la cherchent, cette révélation de Dieu va mettre la foi dans notre cœur et nous allons vaincre cette crainte charnelle. Et nous allons nous lever pour dire aux hommes tout ce que Dieu nous a demandé de leur dire. Et là-dedans, il y en a des choses. On n'a pas besoin d'avoir une apparition comme Jérémie ou une révélation directe par une voix audible. Il nous suffit de lire, de comprendre cette parole, de la mettre dans notre cœur, de la mettre en pratique et de vivre cette vie chrétienne comme Dieu veut qu'on la vive, sans crainte. Et là, à ce moment-là, l'Esprit de gloire repose sur nous. L'esprit de persécution aussi. Alléluia. Alors vous voyez que quand Paul dit à Timothée, ce n'est pas, Timothée, un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timidité, c'est le même sens que crainte, là. Ce n'est pas un esprit de crainte que tu as reçu, c'est un esprit de force. Tu l'as reçu. Non pas tu vas le recevoir un jour si tu te comportes bien, mais lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu un esprit nouveau et Dieu nous a donné son esprit qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Force, c'est la puissance du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la grâce du Saint-Esprit et puis la sagesse, savoir comment faire, que dire, quand il nous l'a donné. Et je suis heureux que le Seigneur me l'ait donné et nous l'ait donné à tous. Et on doit le croire et on doit lui demander de se manifester pleinement dans nos vies. Alors maintenant, Dieu dit constamment dans la Bible, ne crains pas. Hein. On l'a vu pour Jérémie, mais je n'ai pas compté exactement le nombre de fois, mais c'est par dizaines ou centaines de fois que chaque fois que Dieu se manifeste, il dit aux hommes, et Jésus, ça a été pareil. Et jusqu'à l'Apocalypse, où quand il se manifeste en gloire à Jean, il le touche en disant « Ne crains pas !» Donc la parole que Dieu nous donne en premier, parce qu'il sait que cette crainte est dans le cœur des pécheurs, cette crainte qui est associée au péché, qui est associée à la chair, Dieu sait très bien qu'elle est un boulet pour nos vies, tant qu'on n'a pas cette marche par l'Esprit dans laquelle il veut nous faire marcher. Le Seigneur nous dit, ne crains pas. Il nous donne sa parole pour enlever la crainte. Et constamment, il le dit chaque fois qu'il se révèle à l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de cette crainte spirituelle? S'il nous dit ne crains pas, c'est-à-dire laisse de côté cette crainte charnelle, mais crains Dieu et sa parole. Qu'est-ce que ça signifie craindre Dieu? On le sait dans les grandes lignes, mais on va le voir avec quelques versets. La crainte de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord l'amour pour le Seigneur. C'est la crainte de lui déplaire. Et c'est donc en conséquence la haine du mal et du péché. C'est ça la crainte de Dieu. Dans Proverbe 8, 3, vous savez que nous devons avoir un cœur rempli de haine, nous chrétiens. On doit avoir un cœur rempli de haine pour le péché, pour le mal, sous toutes ses formes. Et quand on a un cœur rempli de l'amour du Seigneur, eh bien, l'amour du Seigneur nous donne la haine du mal et du péché. Comme il est dit que Dieu a une haine parfaite pour tout ce qui est péché. Dans Proverbe 8, verset 3, il est dit, la sagesse enseigne la crainte de l'Éternel. Et il dit au verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc arrogance, orgueil, voix du mal, c'est associé à la crainte de la chair, des hommes. Mais là, il dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du péché. Il faut donc avoir par le Saint-Esprit une révélation de ce que c'est que le péché et le mal. Et c'est la fonction même du Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc de péché. Quand on n'a pas la conscience de ce que c'est qu'un péché, on va faire des choses sans craindre Dieu. Parce qu'on n'a pas la conscience du péché. Ou pas assez. Parce qu'on ne s'est pas assez rapproché de Dieu. Mais plus on va se rapprocher de Dieu, plus la sainteté de Dieu va nous être révélée, et plus la lumière de Dieu va briller dans nos cœurs, et plus on va voir ce qui est désagréable à Dieu, ce qui déplaît à Dieu. Dieu n'aime pas certaines choses, et plus on est en communion avec Dieu, plus on va comprendre par le Saint-Esprit ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu est, le mal, le péché. Et ça, ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école, ça s'apprend dans la prière et dans la communion avec Dieu. Plus notre communion avec le Seigneur augmente, plus on est rempli du Saint-Esprit, plus cet Esprit va nous convaincre de péché, notre propre péché. Qu'est-ce qui reste en moi, Seigneur, de choses qui te déplaisent? Pour ça, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Et quand j'aime Dieu, ça va être le cri de mon cœur. Mais Seigneur, remplis-moi et montre-moi tout ce qui te déplaît parce que je veux te plaire. Je veux être rempli de foi, je veux être rempli d'amour, de puissance. Et il faut que tu me montres ce qui ne va pas dans ma vie, pour que j'aie la crainte de toi et que je puisse te glorifier. Qu'est-ce que c'est que cette vie sur la terre? Qu'est-ce qu'on va chercher sur cette terre? L'argent, le succès, le travail? Il le faut, bien sûr. Il faut des sous pour vivre, enfin au moins pour s'habiller, se nourrir et avoir un toit. Au-delà, ben, le reste, c'est du superflu. Il faut un certain nombre de choses matérielles, mais si notre cœur est attaché à ces choses, nous n'avons pas la crainte de Dieu. On est encore en plein dans la chair. C'est la haine du mal et c'est le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Il est dit bien souvent hein, dans ces passages, dans Proverbes, et là j'ai noté Psaume 111, verset 10, hein, qui dit ceci, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On a besoin de sagesse, la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire dans cette vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Vous n'êtes pas souvent posé la question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Comment est-ce que je vais prendre ce problème? Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Si la crainte de Dieu est dans mon cœur, je vais recevoir la sagesse de Dieu. Parce que je serai en communion avec lui. Donc c'est une attitude de cœur humble et obéissante. La crainte de l'Éternel, c'est le fruit d'une vie crucifiée. Obligée, puisque la crainte des hommes, c'est quelque chose qui satisfait la chair. Si la chair est vraiment crucifiée en nous, la crainte des hommes va disparaître et la crainte de Dieu va être pleinement manifestée. Dans Galates 5, 24, il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le Seigneur, il veut nous montrer là que tout est accompli par Jésus à la croix. Il nous a transportés avec lui dans sa mort, où notre chair a été crucifiée, et il nous a ressuscités avec lui par sa résurrection. Il nous a transportés avec lui dans les lieux célestes où nous sommes assis avec lui en esprit, à la droite du Père. Donc si nous comprenons ça, si nous le recevons par la foi, si nous comprenons que notre chair a été crucifiée, eh bien on va voir cette foi se traduire dans des œuvres correspondantes. On va voir les œuvres de la chair disparaître de notre vie, par la foi dans cette parole, et pas par notre simple volonté ou nos bonnes résolutions. C'est par la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus. Il nous dit, ta chair a été crucifiée. Ta crainte des hommes, elle est disparue dans le trou, dans le tombeau avec Jésus. Il faut que tu le saches et que tu le crois. Et un peu plus loin, dans Galates 6, 14, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée. Est-ce que cette pensée est loin de nous? Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La chair, le monde, Satan, tout ça, c'est dans le même panier. C'est quelque chose qui est diabolique, qui est rempli de choses charnelles, terrestres et diaboliques, dit Jacques. Donc tout ça, ça a été englouti dans la mort de Jésus, et il faut l'intégrer par la foi, il faut le comprendre, et il faut renouveler nos pensées, parce qu'il dit « loin de moi la pensée », vous voyez, il contrôle ses pensées. Quand ces pensées charnelles venaient, Paul disait « Non, loin de moi cette pensée. La seule pensée qui va rester dans mon cœur, dans mon esprit, c'est que ma chair a été crucifiée avec Jésus. Et maintenant j'ai reçu une vie nouvelle et je marche dans cette nouveauté de vie par l'esprit. Je l'ai reçue par la foi et je le garde, je l'entretiens cette pensée. J'y pense constamment. Ta chair a été crucifiée. Quand je vois une tentation venir dans ma vie, parce que je suis un homme, il y a des tentations, on est tous tentés et c'est là que vient le progrès spirituel, on grandit par la victoire sur les tentations, quelles qu'elles soient. Quand la tentation vient, immédiatement je vois, pas par la visualisation, mais par la foi, je vois la croix de Christ plantée dans mon cœur. Et je me rappelle cette parole du Seigneur. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair est toujours là avec ses passions et ses désirs, mais pour moi, il y a un abîme qui a été creusé par la croix de Jésus entre elle et moi, et c'est plus elle qui domine ma vie, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Donc c'est le fruit d'une vie crucifiée qui a compris ce que Jésus a fait. Cette crainte donc spirituelle, quand elle s'établit dans nos cœurs, elle fait disparaître la crainte charnelle. Elle fait disparaître la crainte des hommes, elle fait disparaître la crainte des mauvais événements, elle fait disparaître la crainte des mauvaises nouvelles, elle fait disparaître toutes ces craintes charnelles qui si souvent dominent dans la vie des chrétiens, la crainte de la souffrance, puisque Jésus dit dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 2,10, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, et il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. La chair, elle craint la persécution. Mais là, le Seigneur lui dit, ne crains pas. Donc, ça fait disparaître aussi cette crainte de la souffrance, de la persécution, d'être incompris, maltraité, rejeté. Combien de chrétiens souffrent encore du fait d'être rejetés? Ils ne se rendent pas compte, ces bien-aimés, que c'est une grâce de Dieu de supporter des mauvais traitements quand on n'a rien fait de mal, quand on souffre injustement. Première épître de Pierre. Il faut qu'on s'en rende compte. On est appelé à ça, être injustement traité, à souffrir la persécution, à souffrir le rejet, l'incompréhension. Comme notre maître y est passé, on y passera aussi, à un moment donné ou à un autre de notre vie. Et quand ça arrive, réjouis-toi parce que tu as été jugé digne de l'être. Si tu réagis charnellement en disant « Oh, regarde ce qu'on m'a fait encore, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il a dit de moi, et on a encore raconté des ragots sur moi, et on a encore dit des médisances et des calomnies, tu te rends compte ? » Et on va commencer à se lamenter, s'apitoyer sur soi-même, on n'a rien compris. à ce que c'est que le plan du Seigneur pour nous. Il veut qu'on apprenne à passer au travers de ces choses parce qu'on y est destiné. C'est ça, participer aux souffrances de Christ. Et Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et à Smyrne, ils allaient souffrir, ils allaient être mis en prison et certains allaient périr. Donc ça fait disparaître toute cette crainte charnelle. Parce que Dieu est notre soutien, Dieu est pour nous, si nous avons la crainte du Seigneur, et si nous avons le cœur libre du péché, Dieu est pour nous. Je vais vous lire le psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Mes bien-aimés, est-ce que le Seigneur est le soutien de ta vie? Tu es fils, fille de Dieu, tu es enfant de Dieu. Il t'aime tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes difficultés, avec tes chutes, avec ton caractère charnel, quelquefois, le Seigneur t'aime tel que tu es, mais il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Il va t'aider à en sortir. Et il veut mettre dans ton cœur la crainte de son nom. Et quand tu auras cette crainte de l'Éternel, tu diras comme David, « Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Jésus dit, « Mais je vais vous dire, moi, qui vous devez craindre. Ne craignez pas celui qui peut ôter votre vie. Craignez celui qui peut tuer et mettre dans la géhenne. Un seul Dieu a le pouvoir d'ôter la vie et de jeter en enfer. Crains le Seigneur, mais quand tu as cet amour du Seigneur, de qui aurais-je peur? Tu es le soutien de ma vie, Seigneur. Je marche humblement devant toi. » Donc cette crainte s'en va parce que Dieu est le soutien de notre vie. Parce que Dieu est avec nous, dans Ésaïe 41:10. Ésaïe 41, dans ce merveilleux chapitre-là et les suivants. On va commencer au verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, » c'est comme s'il parlait à chacun de nous, « Toi, mon serviteur, ma servante, que j'ai choisi, » c'est Jésus qui nous a choisi, « race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, du royaume de Satan où on était enchaîné, enténébré. » Il nous a sortis de cette contrée lointaine, il nous a fait rentrer dans son royaume. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le premier verset, là, nous disait, Dieu est le soutien de ma vie, ça veut dire Dieu est pour moi. Là, Dieu est avec moi. Dieu ne se contente pas d'être pour moi, mais loin dans son ciel. Et puis, de temps en temps, il m'envoie un petit ange pour me secourir, parce qu'il est pour moi, il est de mon côté. Non, il est avec moi. Et Jésus dira même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Celui qui aime ma parole, celui qui craint le nom de l'Éternel, Jésus vient faire sa demeure en lui, dans sa maison et dans son cœur. Alors, quelle crainte on peut avoir quand on sait que Jésus est là, dans notre maison et dans notre cœur. Si Jésus habitait physiquement en chair et en os dans notre maison tous les jours de notre vie, est-ce qu'on aurait crainte de quoi que ce soit? On dirait, mais c'est merveilleux, Jésus est là. Il peut arriver le tremblement de terre le plus épouvantable, une armée peut camper contre moi, je serai sans crainte, parce que mon Sauveur est avec moi. On oublie trop souvent qu'il est avec nous, qu'il nous fait le privilège d'être porté par nous partout. Nous sommes le tabernacle de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller à nos fréquentations et aux endroits où on va. Si on va dans des boîtes de nuit en tant que chrétien ou au cinéma, voir n'importe quel film, on emmène Dieu avec nous. Imaginez un peu ce que le Seigneur peut ressentir à ce moment-là. Mais si nous marchons selon la volonté de Dieu, Dieu est avec nous, il se réjouit avec nous et nous ne risquons rien du tout. Et au psaume 78:53, versets 52 et 53, « Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert, il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte. » Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, mais en plus de ça, Dieu nous dirige. Il nous dirige par son esprit, par sa parole, jusque Dans la vie éternelle, Jésus est le bon berger qui est là avec son troupeau. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Il met devant nous une table face à nos ennemis et il verse sur notre tête une coupe et mon cœur déborde parce que Dieu est avec moi. Et il me dirige sur les sentiers de la justice. Il est pour moi, il est avec moi, il me dirige. Mais ce n'est pas merveilleux ça? Quelle crainte peut rester dans nos vies? La crainte des hommes, la crainte du chômage, la crainte de manquer, la crainte de ne pas avoir d'argent pour faire la fin du mois, mais tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est encore une crainte charnelle. Heureusement que le Seigneur nous en libère. Je vais rajouter un petit élément qui me semble important. Dans Ésaïe 11.3, il est dit ceci. Le Seigneur nous libère complètement dans les moindres détails de cette crainte. Dans Ésaïe 11, versets 1, 2 et 3, où il est parlé du Seigneur Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe qui était le père de David. Un rejeton naîtra de ses racines, le fils de David, Jésus. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est comme Jésus, loin du Saint-Esprit, puisque c'est le but du Seigneur? On va respirer la crainte de l'Éternel, elle va sortir par tous les pores de notre être, la crainte de l'Éternel, et il va se passer ce qui est dit au verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, et il ne prononcera point sur un « oui-dire ». Mais il jugera les pauvres avec équité, avec justice. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Vous voyez comment, étant débarrassé de la crainte de l'Éternel et de la crainte des hommes, on peut avoir un point de vue juste sur les hommes et sur les événements et porter un jugement correct. La crainte des hommes, la crainte charnelle, elle déforme notre jugement. On n'arrive pas, on se laisse aller par l'apparence, par les oui-dire. Combien de fois dans l'Église de Dieu, l'Église est ravagée par les apparences, par les oui-dire? Je sais bien qu'on doit éviter même l'apparence du mal, mais si nous nous laissons aller à juger d'après l'apparence et d'après des oui-dire, c'est que la crainte de l'Éternel n'est pas encore parfaite dans notre cœur. On ne respire pas encore pleinement la crainte de l'Éternel. Il faut aussi faire attention à une fausse crainte de l'Éternel, qui est une apparence de crainte de Dieu, et qui est définie dans Ésaïe 29, un peu plus loin, Ésaïe 29, ça aussi c'est important, et je le dis en conclusion, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de crainte de l'Éternel. Il y a une vraie crainte de l'Éternel, qui résulte de la véritable onction du Saint-Esprit, là où est l'Esprit, là est la liberté, dans la sainteté, dans l'obéissance. Mais il y a aussi une fausse crainte de l'Éternel, qui est une crainte qui vient d'un esprit légaliste, et il y a bien des églises où cet esprit peut se manifester, c'est-à-dire où on garde l'apparence de la crainte de l'Éternel, mais sans en garder l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la compassion et la miséricorde. Donc il est écrit dans Ésaïe 29, verset 13, « Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Donc là, il parlait du peuple juif qui respectait les fêtes, qui respectait toutes les ordonnances de la loi, qui venait faire les sacrifices, qui venait chanter les cantiques, qui venait aux réunions au temple ou à la synagogue, etc. Donc apparemment, ils avaient vraiment la crainte de l'Éternel. Mais en fait, Dieu dit, ce n'est que l'apparence, et leur cœur est éloigné. Ils ont simplement une fausse crainte apparente, mais elle n'est pas dans leur cœur. Ce n'est pas contre les apparences que Dieu a, c'est le fait que dans leur cœur, il n'y a pas l'amour profond de Dieu et pour sa parole. Donc la vraie crainte de l'Éternel vient d'un amour profond pour Dieu et sa parole. Donc il faut aussi que nous discernions chaque fois qu'on a été conduit dans ces choses par une crainte de l'Éternel qui était superficielle et qui n'était pas profonde. Alors en conclusion, je vais juste rappeler que si on veut vraiment marcher dans la crainte de l'Éternel, et ne plus avoir la crainte charnelle et la crainte des hommes dans le cœur, il faut que nous nous approchions du Seigneur. Je répète simplement ce que j'ai dit, mais en conclusion, je mets l'accent dessus, que nous nous approchions du Seigneur pour que nous puissions comprendre ce que Jésus a fait de nous en lui, par sa mort et sa résurrection à la croix, et que nous méditions constamment ces vérités de la parole qui nous montrent ce que Jésus a fait de notre chair et le sort qu'il lui a réservé. Il a réglé sur la croix le problème de la chair avec ses passions et ses désirs. Il faut donc que nous méditions ces versets qui en parlent de la crucifixion de la chair pour comprendre qu'il y a une révélation spirituelle dans nos cœurs, qu'on comprenne que pour Dieu c'est une chose réglée pour nous en Jésus-Christ. Et qu'à mesure qu'on va méditer ça dans la prière, dans la méditation de la parole, Seigneur, je vois bien qu'il y a encore des réactions charnelles dans ma vie. Hein. Tu ne vas pas me rejeter à cause de ça, mais tu veux que ça disparaisse de ma vie. Alors je sais que je ne peux y arriver que par la foi. Tout ce que Dieu me donne, c'est par la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus. Nous avons tout en Jésus-Christ, mais il faut l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Et on ne peut l'intégrer que si on le reçoit par la foi. Si vraiment Jésus vient te dire personnellement, par une révélation personnelle, « Bien-aimé, hein, tu peux mettre ton prénom là, bien-aimé, je veux te dire que ta chair qui te tourmente si souvent, ta chair, elle a été crucifiée avec moi quand je suis mort à la croix. Et quand je suis ressuscité, eh bien tu es ressuscité avec moi une vie nouvelle. Crois-le, dit Jésus, crois-le de tout ton cœur, pas seulement là, mais là dans le fond du cœur. Et tu le verras pleinement se manifester. Reste dans cette foi. Et l'important aussi donc, c'est de rester dans la prière. La foi s'appuie sur la parole. Et la foi s'appuie aussi sur la prière. Parce que quand je vais comprendre que Jésus a tout accompli pour moi, je vais prier le Seigneur en disant, « Seigneur, j'ai compris. Maintenant, aide-moi à manifester pleinement cette chose dans ma vie. Aide-moi à bien comprendre. Donne-moi une révélation. » Tout ça, c'est dans la prière que je le demande à Jésus. Je vais rester les yeux fixés sur Jésus parce qu'il est écrit dans 1 Jean 4, verset 18, « L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte charnelle. Donc ce qu'il faut à ma vie, c'est que je m'approche de Jésus, que je vive en communion avec Jésus, que je regarde constamment Jésus, que je médite sur Jésus, que je me rapproche de Jésus, qui est l'amour parfait de Dieu manifesté en chair. Et quand je vais avoir cette communion avec Jésus, et que je vais demander à Jésus qui baptise du Saint-Esprit de me remplir de plus en plus du Saint-Esprit et de la connaissance de sa parole, qu'est-ce qui va se passer? L'amour de Jésus va grandir dans mon cœur. Il va grandir de plus en plus. Et l'amour de Jésus va remplir de plus en plus mon cœur. Et à mesure que cet amour de Jésus remplit mon cœur, il est écrit l'amour parfait, l'amour agapé, bannit la crainte. Bannit, ça veut dire chasse à l'étranger. Quelqu'un qui est banni, c'est quelqu'un qui est chassé de son pays à l'étranger. C'est comme si la crainte était chassée par l'amour de Dieu. Quand l'amour rentre, la première chose que l'amour dit à la crainte, c'est « Va-t'en de là, je ne veux plus de toi ici. » Et la crainte part, la crainte des hommes, la crainte de la chair s'en va. Donc la solution, c'est dans la recherche de Jésus et de son amour parfait. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est ma prière ce soir pour moi. C'est ma prière pour tous tes enfants bien-aimés, que Seigneur, nous puissions toujours nous rapprocher constamment de toi, parce que tu as dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Si tu me cherches, tu me trouveras. Et Seigneur, quand nous trouvons la paix, la joie, l'amour, la puissance, la force. Seigneur, nous comprenons ce que tu es venu faire pour nous. Nous comprenons ce que tu as fait à la croix pour nous et en nous. Seigneur, et à ce moment-là, tu nous remplis de ton esprit, de ton amour. Tu nous rends capables de tout supporter par cet amour. Tu nous rends capables, Seigneur, de bannir la crainte des hommes, cette crainte charnelle qui nous paralyse si souvent. Seigneur, je te bénis parce que tu es vraiment un Dieu merveilleux. Tu fais une œuvre parfaite dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, jusqu'à ce que nous soyons tous à ton image, Seigneur, à l'image de la stature parfaite de Jésus, et c'est ton plan, et je te bénis parce que tu l'accompliras. J'ai cette foi dans mon cœur parce que tu me l'as promis, Seigneur. Nous serons un jour à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Je te prie pour que chacun ici soit débarrassé de toute crainte des hommes, que nous puissions annoncer ta parole avec assurance, avec amour, avec sagesse. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia.